Penser, c'est vivre. Une émission laïque. Bonsoir. Notre invité aujourd'hui est Mohamed Harkoun, professeur à l'Université de Paris 3, spécialiste de l'histoire de la pensée islamique. Mohamed Harkoun était un des intervenants au récent colloque qui s'est tenu à Bruxelles sous le titre « Humanisme ou barbarie ». Son intervention au colloque posait la question « Peut-on parler d'humanisme dans les sociétés arabes ?» Véronique Basset, qui a rencontré pour nous Mohamed Harkoun, commence par évoquer le romancier Amin Maalouf. Amin Maalouf qui a porté sur les croisades chrétiennes un regard terrible. Les croisés étaient des barbares. Aujourd'hui, les intégristes musulmans ne se prennent-ils pas, eux aussi, pour des croisés, voulant transformer l'Europe en république islamique? Mohamed Harkoun.
Amin Maalouf, que je connais bien, c'est un ami, a fait un travail très positif pour présenter à l'opinion européenne sous une forme littéraire ce que quelques historiens, et en particulier Claude Cahen, qui a été mon maître à la Sorbonne, avaient déjà présenté sur un mode plus scientifique. Il y a en effet toute une révision de l'époque des croisades qu'il faudrait refaire pour essayer de nous arracher à la présentation que le christianisme européen on a fait pour légitimer évidemment l'action des croisades au nom de la religion et de la vérité religieuse telle qu'elle était conçue au Moyen-Âge et qu'elle continue d'ailleurs malheureusement d'être conçue et utilisée dans un certain nombre de milieux. On n'en est pas encore sorti et il est juste à cet égard de faire la comparaison entre la croisade, les croisades chrétiennes au Moyen-Âge et ces sortes de résurgence d'un modèle de la vérité religieuse qui permettrait, selon ce qu'on appelle les fondamentalistes, aussi bien juifs que chrétiens que musulmans aujourd'hui, de construire une civilisation et une culture qui serait meilleure que celle que l'Europe a produite avec le modèle laïque sur lequel nous vivons. Il y a en effet une compétition. Il faudrait approfondir l'analyse de la similitude du point de vue du fonctionnement de l'imaginaire religieux entre la période des croisades et la période que nous vivons aujourd'hui, du côté musulman en particulier.
Les fondamentalistes, en fait, veulent créer des républiques islamiques un peu partout, même en Occident, donc ils ont un peu l'attitude parallèle aux croisés.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent fonder ces républiques avec le sentiment très fort qu'elles seraient fondées sur une vérité universelle révélée par Dieu. Exactement comme les croisés, effectivement, allaient délivrer le tombeau du Christ en Palestine contre les musulmans considérés comme des infidèles et des ennemis de ce Christ, alors qu'il n'en est absolument rien, puisque le Christ occupe dans le Coran une place de premier plan. Il est reconnu comme le Verbe de Dieu, il est très respecté, il y a des pages sur Marie, justement, qui sont tout à fait non seulement conformes au respect que les chrétiens ont pour Marie, mais il y a beaucoup de poésie et beaucoup de ferveur spirituelle dans l'évocation de Marie dans le Coran, donc c'était basé sur une ignorance et une idéologie. C'est pour cela que je dis on peut effectivement faire un rapprochement sur le fonctionnement d'un modèle imaginaire dans une situation d'ignorance, mais aussi dans une situation de pression idéologique de la part de la société. Il y avait une pression idéologique sous les croisades, et il y a une pression idéologique, une demande politique très forte dans les sociétés musulmanes actuelles, qui n'est pas satisfaite et qui donc dérive vers l'imaginaire pour compenser par une revendication par l'imaginaire ce que le politique ne donne pas. C'est une analyse, par conséquent, très éclairante sur le fonctionnement des humains que nous sommes et de la faiblesse de l'homme en proie aux contraintes à la fois de la politique, de la société, des épidémies autrefois, des crises économiques aujourd'hui et devant lesquelles nous sommes démunis autant que pouvaient l'être nos prédécesseurs du Moyen-Âge. Ça nous donne une leçon d'humilité, cette comparaison, et ça devrait nous faire réfléchir.
Alors les Arabes, les Juifs, les chrétiens pendant l'Espagne du Moyen-Âge, ont connu ce qu'on appelait l'âge d'or. C'était l'humanisme avant même que les Occidentaux ne le découvrent.
Exactement. Il y a là une page historique de l'histoire de la pensée dans le monde méditerranéen qui a commencé à s'écrire déjà à Alexandrie au IIIe siècle, au temps de ce qu'on appelle le néoplatonisme. En Égypte, par conséquent, et aussi dans des villes en Proche-Orient comme Édesse, il y avait une diffusion de la pensée grecque sous la forme néo-hellénistique qui a influencé les églises chrétiennes d'Orient et qui ensuite ont provoqué évidemment une continuation de cette pensée sous la forme arabe, parce que le califat musulman à Damas puis à Bagdad a favorisé l'accueil de cette pensée qui n'a jamais cessé de cheminer tout autour de la Méditerranée et de se transmettre en particulier par les efforts de traduction qui ont été développés à la fois en Proche-Orient et en Andalousie dans cette période du 7e au 12e siècle, en particulier 12e, 13e siècle, qui a été une période, on peut le dire, d'humanisme, parce que c'était une période de grande ouverture à la connaissance scientifique, à la connaissance philosophique, très développée, avec des philosophes juifs, arabes, qui ont écrit en arabe, parce que la langue arabe est devenue, de ce fait, la langue de culture, la langue des grands échanges intellectuels et de la recherche scientifique. Et ceci a duré donc quand même plusieurs siècles, et cette grande et belle aventure de l'humanisme autour de la Méditerranée qui a touché l'Europe à partir du XIIIe siècle et qui a permis à des théologiens et des philosophes en Europe de bénéficier de ce qu'il y a, toutes ces œuvres en arabe ont été traduites ensuite en latin, toute cette aventure, au meilleur sens du terme, de l'esprit humain et donc de ce qu'on peut appeler l'humanisme en ce temps-là, se trouve complètement occulté à partir du XVe, XVIe siècle.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que, d'une part, il y a eu la grande euphorie en Europe de la Renaissance, de la découverte de l'Antiquité grecque et latine, de l'Antiquité littéraire, de l'Antiquité culturelle, de l'Antiquité juridique aussi, pour les Romains. Tout cela a déterminé le grand mouvement de la Renaissance, avec le grand appétit de vivre et de connaître qui caractérise la Renaissance, et par conséquent la référence aux Arabes et à la période arabe est devenue inutile. Et aussi il y a eu à partir du XVIe siècle cet autre phénomène, la réforme luthérienne, le mouvement luthérien qui est un ébranlement du magistère doctrinal chrétien qui maintenait le poids considérable de l'Église catholique sur l'ensemble de la vie intellectuelle et culturelle en Europe. Ce fut donc là aussi une conquête de la raison humaine qui, pour la première fois, était autorisée à pratiquer ce que l'on appelle le libre examen des Écritures saintes qui était réservé au magistère doctrinal catholique. Alors, tout cela a provoqué évidemment un appétit de vivre et de connaître qui nous a donné ces grands textes de la Renaissance et de la Réforme, et qui, effectivement, ont déterminé une sorte de mutation de l'intelligence et de mutation, par conséquent, du regard que l'homme porte sur lui-même et porte sur les institutions qu'il a créées, en particulier le domaine du politique. Tout ceci a rendu caduc non seulement le Moyen-Âge arabe et musulman, mais même le Moyen-Âge chrétien. Et par exemple, à partir de Descartes, Spinoza, Leibniz, la philosophie va remplacer et discréditer ce qui a été la théologie auparavant. Et depuis, nous vivons sur cette séparation jusqu'à nos jours en Europe. La réflexion théologique est séparée de la réflexion philosophique. Et effectivement, ce sont deux attitudes différentes de l'esprit. Ainsi, toutes les références qui ont pu fonctionner auparavant à la culture arabe, qui elle-même, comme je l'ai dit, perpétue l'attitude philosophique grecque en l'amplifiant, tout cela est progressivement devenu caduc, et la chose a été rendue pire encore du fait du surgissement de l'Empire ottoman au XVIe siècle, qui a été un défi politique et militaire à l'Europe, justement, de la Renaissance et de la Réforme. Et l'Europe s'est trouvée engagée dans la compétition pour le contrôle de l'espace méditerranéen contre la puissance musulmane qui représentait l'Empire ottoman. Donc ça se double, comme vous le voyez, d'une volonté d'hégémonie politique et économique dans l'espace méditerranéen. Et vous voyez à quel point l'espace méditerranéen a représenté au cours de l'histoire une référence tout à fait de premier plan pour les compétitions, les rivalités et aussi les interférences, les échanges entre toutes ces idées qui constituent ce que nous appelons aujourd'hui la culture européenne. Mais du fait de la suprématie de l'idéologie développée par l'Europe chrétienne contre l'islam, tout l'apport de la pensée islamique d'expression arabe a été complètement éliminé et effacé. Dans ce grand mouvement, donc, à la fois intellectuel, culturel, philosophique et militaire, politique, etc. Et la chose s'est poursuivie et s'est aggravée avec les grandes conquêtes de l'Europe au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et ça a abouti au XIXe siècle avec l'hégémonie ouverte, c'est-à-dire l'établissement ouverte des dominations coloniales, qui ont duré jusqu'aux années 50-60 et qui se perpétuent dans le domaine économique. Car si ces peuples ont conquis une souveraineté politique, il y a des États indépendants, dits indépendants. Nous savons très bien à quel point ils sont dépendants toujours de l'Europe sur le plan économique et aussi sur le plan maintenant de la technologie, c'est-à-dire de la pensée scientifique, c'est-à-dire du modèle économique et même du modèle juridique de la construction de l'État. Puisqu'on leur dit, tant que vous n'aurez pas d'État démocratique et tant que vous n'aurez pas proclamé les droits de l'homme à la manière juridique dont nous l'avons fait, vous n'accéderez pas au club des bons États qui ont fait des parcours historiques acceptables. Ça revient à ça. Quand l'Europe dit à la Turquie, non, 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 vous ne pouvez pas entrer dans le Conseil de l'Europe parce que vous êtes des musulmans et que vous n'avez pas participé au parcours historique européen. Ça veut dire ça.
Et vous regrettez, vous personnellement, qu'à la veille de la construction de l'Europe, on oublie un peu la Méditerranée. Absolument. Vous lui trouvez un rôle central.
Je trouve que c'est une faute politique.
Bien entendu, et philosophique ?
Bien entendu, c'est une faute politique qui est fondée sur cette occultation séculaire de la part intellectuelle jouée par les arabo-judéo-musulmans dans la genèse historique de ce que nous appelons aujourd'hui la pensée européenne, la culture européenne ou l'humanisme européen. Et il est tout à fait inacceptable, et pour des intellectuels arabes et même juifs à certains égards, je pense à Maïmonide, par exemple, qui fait partie de ces grandes figures humanistes du Moyen-Âge. C'est toujours une sorte de blessure d'entendre des intellectuels européens aujourd'hui, quand ils parlent d'humanisme comme nous le faisons ici, citer de grandes figures d'humanisme, alors qu'il y a des figures d'humanistes authentiques, comparables à Erasme, à Bodin, etc., que l'on peut citer, et qui ont vécu à Bagdad ou à Cordoue au Xe siècle, au IXe siècle. Et il y a un nom en particulier qui, personnellement, m'a beaucoup influencé, il s'appelle Abu Hayyan Tawhidi. Vous voyez, le seul fait de le citer, il reste complètement étranger, bien sûr, aux oreilles européennes. On peut comprendre cela, mais si cette page d'histoire avait été étudiée, je pourrais prononcer ce nom-là et il éveillerait des associations.
Autant que Montaigne.
Autant que Montaigne, par exemple. Et celui-ci a vécu, encore une fois, au Xe siècle, six siècles avant Montaigne. Et voilà ce que j'appelle un remembrement de l'histoire culturelle et intellectuelle de l'espace méditerranéen, pour réagir contre les fractures imposées à cet espace par des volontés idéologiques et des volontés d'hégémonie. L'Empire ottoman aussi voulait une hégémonie militaire. Je le dénonce tout autant, hein, il ne faut pas croire que je dénonce uniquement l'hégémonie européenne. Il se trouve que l'hégémonie européenne s'est perpétuée et n'a cessé d'augmenter jusqu'à nos jours, tandis que les Ottomans, il y a longtemps qu'on n'en parle plus. Ce n'est plus qu'une page d'histoire.
Est-ce que vous pensez que la Méditerranée peut être un pont entre le Nord, en fait, l'Europe du Nord et l'Orient ?
Justement, cela va dépendre de la vision politique qui va s'imposer dans le nouvel espace européen. Les débats auxquels nous assistons à propos de la ratification du traité de Maastricht, malheureusement, laissent craindre que la Méditerranée soit laissée dans la marche. On n'a pas entendu beaucoup d'orateurs politiques évoquer justement la place de la Méditerranée dans cette nouvelle Europe et ce nouvel espace politique européen qui est en train de se construire. L'Italie, bien sûr, est tout à fait intéressée, mais nous voyons malheureusement qu'elle se trouve dans des difficultés politiques et économiques et monétaires telles que sa voix ne va pas compter autant que celle de l'Allemagne et de la France. Et à l'intérieur de cet espace européen, je crains que les rapports de force ne soient pas tout à fait équivalents. Et même en France, nous constatons que les Français regardent davantage vers l'Allemagne. Et j'ai entendu évoquer le danger allemand dans le nouvel espace en France lors de la campagne pour le référendum, mais je n'ai jamais entendu personne évoquer la dimension méditerranéenne de la construction européenne. Voilà, comme ça, la dimension méditerranéenne de la construction européenne. Pas la moindre allusion. Pendant toute une longue campagne acharnée, comme on l'a vu, très, très, très partisane de part et d'autre, eh bien, la Méditerranée n'a pas existé. Et pourtant, la France a plusieurs raisons de faire valoir cette dimension de la Méditerranée dans la construction de l'Europe. Et il est vrai que l'Allemagne, qui pèse d'un grand poids, a tellement de problèmes du côté de l'Est, qu'elle est tellement éloignée aussi de cette dimension méditerranéenne par sa langue, par sa culture et par son histoire, que, il est à craindre qu'on se focalise sur la puissance allemande et le moyen de conserver une place dans une Europe qui serait dominée par l'Allemagne, que la Méditerranée, qui est composée de nations malheureusement moins nantie et moins influente, et il est à craindre que cette dimension soit négligée. Alors que intellectuellement et culturellement, c'est tout à fait capital, parce que c'est un lieu de ressourcement sur le plan intellectuel, à mon avis, et sur le plan culturel, non seulement pour l'Europe, mais pour une Europe qui attirerait et faciliterait aux arabo-musulmans du Sud et de l'Est une intégration dans un cheminement historique qui profiterait des acquis européens sur ces valeurs que l'on appelle la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme, etc., et qui seraient partagées et amplifiées pour sauver l'homme et émanciper l'homme, car enfin, ça n'est pas seulement pour l'humanité européenne que ces choses-là sont faites.
Il y a peut-être aussi la peur du Sud, la peur des intégrismes, parce que souvent on se demande ici, est-il possible, et vous l'avez posé aussi cette question, d'être humaniste dans les sociétés arabes actuelles?
Il est tout à fait possible d'être humaniste dans les sociétés arabes actuelles aussi, mais il y a des situations qui ont été créées durant les 30 dernières années qui rendent évidemment difficile la pratique d'une attitude humaniste. Ces situations sont liées au phénomène démographique, d'une part, elles sont liées à l'existence de l'État-nation-parti, avec des traits d'union, l'État qui contrôle idéologiquement toute la nation, ou plutôt toute la société, et qui tire sa légitimité d'une promesse de la nation, et non pas d'une pratique démocratique qui permettrait aux citoyens de participer à la production de la politique du pays, et aussi en réservant tous les rouages du pouvoir et tous les pouvoirs de décision à un parti unique. Voilà comment les choses se sont développées pendant 30 ans, et ceci a causé des dégâts tout à fait considérables dans ces sociétés. Et cela ne veut pas dire que les citoyens de ces sociétés ne veulent pas de démocratie ou sont contre les droits de l'homme. Ça ne s'est jamais vu. Ça veut dire simplement qu'il s'est produit dans ces sociétés ce qui se produit dans beaucoup de sociétés. Un groupe s'empare du pouvoir, comme dans les pays soviétiques autrefois, et exerce ce pouvoir par tous les moyens modernes de contrôle des citoyens, d'embrigadement des citoyens, de conditionnement des citoyens, qui sont soumis à cette clique idéologique, sans que personne vienne à leur secours de l'extérieur.
Il faut dire que c'est plus facile d'être laïque et humaniste en Europe que dans les sociétés arabes actuelles.
Bien entendu, du fait de ces difficultés, qui sont des difficultés pratiques de tous les jours. Et par exemple, les forces démocratiques qui existent dans ces pays-là et qui cherchent à promouvoir ces valeurs de la démocratie, eh bien, elles ne trouvent de l'aide ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ce sont des forces minoritaires et isolées. On parle beaucoup plus en Europe des fondamentalistes qu'on ne parle de ces libéraux intellectuels, politiques qui existent et qui mènent un combat en quelque sorte désespéré et dont l'Europe ne parle pas, tout en accusant par ailleurs ces sociétés de ne pas se mouvoir vers les valeurs démocratiques. Vous voyez la contradiction. Et voyez aussi la manipulation du citoyen européen réputé libre et réputé émancipé de toute malformation, si je puis dire, de l'information qui lui est donnée. Il y a une énorme manipulation, une énorme illusion dans lesquelles on maintient le citoyen européen, ce qui fausse le fonctionnement de la démocratie, en particulier sur ces problèmes importants.
Parce qu'on se pose peut-être aussi la question, est-il possible d'être musulman et laïque à la fois ?
Mais bien entendu, ça relève, voilà, le type de fausse question qui surgit dans cet imaginaire fabriqué au sujet de l'islam. Car il faut savoir que l'islam, en tant que pensée, a une attitude extrêmement ferme et claire sur la séparation entre l'instance de l'autorité et l'instance du pouvoir politique. L'autorité, c'est là où le sens se dit, s'énonce dans la société. Et selon la théologie musulmane, personne, aucun docteur de la religion, aucun théologien n'est habilité à imposer aux autres musulmans son opinion à lui au sujet de l'interprétation du Coran. L'interprétation du Coran ne peut s'imposer qu'à la suite du débat libre entre tous ceux qui prennent la parole sur un problème d'exégèse. Et tout le monde est habilité à prendre la parole. Parce qu'il n'y a aucune hiérarchie qui puisse venir dire « vous n'avez pas le droit, lui, il a le droit ». Sauf évidemment la compétence linguistique, ou la compétence d'analyse d'un texte, ou la compétence de la connaissance historique. Ça, oui. Et cette compétence se juge par les auditeurs du débat. Et le calife, ou l'émir, ou le sultan, ou aujourd'hui le président de la République, n'a absolument aucun pouvoir d'imposer l'opinion d'un théologien contre les autres. Et ceci s'est produit au cours de l'histoire. Lorsque le calife Al-Ma'moun, au 9e siècle, a voulu imposer la doctrine d'un mouvement théologique sur le Coran, tout ceci nous montre, je crois, la nécessité aussi bien pour l'Europe et sa tradition intellectuelle et culturelle, que pour la tradition également longue et riche de ce qu'on appelle l'islam, et en incluant, il ne faut pas l'oublier, la tradition juive, parce qu'elle a joué aussi un rôle historique important dans tout cela. Et puis aujourd'hui, la présence de la pensée juive et tout ce qui concerne le monde juif, etc., est extrêmement important. Tout cela, à mes yeux, mérite une reprise intellectuelle, culturelle, dans un champ de liberté garantie par les espaces démocratiques qui existent déjà en Europe, à condition que la pensée politique européenne accepte de transgresser la sphère limitée de ce qui a été son parcours historique depuis le XVIe siècle jusqu'à maintenant, qui est un parcours d'hégémonie, pour passer à une étape de l'histoire que j'appelle, moi, l'histoire solidaire, la solidarité des peuples vécus et non pas simplement évoqués dans des discours politiques.
Notre invité aujourd'hui était Mohamed Harkoun, spécialiste de l'histoire de la pensée islamique et aussi professeur à l'université de Paris 3. Penser, c'est vivre était une émission de Véronique Basset, montage Thierry Lequeux, réalisation Liliane Becker.